C'est un espace où le client est assis dans un fauteuil qui ressemble. Le fauteuil est entre le fauteuil de dentiste et le fauteuil de PDG. Quelque chose comme ça. Il nous voit un peu en contrebas. Je crois que c'est ça. Il nous voit un peu en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de lui. Et nous, enfin, en l'occurrence, moi, je suis sur un petit canapé un peu vieillot, recouvert de tissu un peu vieillot aussi, mais qui brille, c'est le plus important. Dans une lumière tamisée et souvent qui ne marche pas très bien, donc il faut aller régler le bouton soi-même. Et puis il y a une barrière entre moi et le client. Et le sol sur lequel est posé le siège du client est en faux marbre, enfin je pense que c'est du faux marbre. En tout cas en carrelage, puisque au moment où il éjacule, il risque de mettre partout par terre. Et donc c'est préférable pour pouvoir passer la serpillière après sur le caissier.
Souvent les hommes gardaient leurs pantalons à mi-cuisse. Certains se déshabillaient totalement, c'était assez drôle d'ailleurs, parce que ça prenait du temps de se déshabiller. C'est un espace extrêmement exigu, donc le mouvement n'est pas très aisé. C'est vrai que c'est un temps qui était drôle à vivre, parce que nous, les prêtres, quand on arrive en salon, on met déjà notre costume de stripteaseuse. Talon aiguille, parésie, porte-jartel si j'avais le temps, string. Soutien-gorge qui remonte la poitrine, misette affluente. La bif est moine, enfin la bif et la pute, c'est sûr. C'est un mélange d'être subtilement habillé à poil. L'idée que c'est comme ça qu'on chose en particulier, et c'est vrai que j'ai quand même sur moi beaucoup plus regardé leur mythe que leur tête, et aussi d'un point de vue purement pratique, c'est que il y a quelque chose d'assez ridicule à continuer à pousser des petits cris en faisant semblant d'être extrêmement excité une fois que le mythe a joué, parce que là il y a le temps d'une sorte d'état normal, entre guillemets, enfin d'état pas d'excitation. Et quand il revient à la lucidité, il risque de s'apercevoir de la fausseté totale du jeu, des petits cris, des 12 orgasmes qu'on est censé avoir eu pendant qu'il se masturbait. Donc il faut bien regarder, voir le moment où il jouit. Ce qui fait que, pour ça, la position de levrette est assez pratique. Parce que en tournant un peu la tête sur le côté, en la penchant bien, on voit tout à fait le moment où il s'éjacule. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai vu un nombre incalculable de façons d'utiliser le rouleau de sopalin qui était là et qui était mis à leur disposition, que certains utilisaient en emballant pratiquement leur gland à l'intérieur. Alors ça n'est pas très pratique pour voir le moment de l'éjaculation. Certains autres, au contraire, tenaient leur sexe dans une main et de l'autre former une espèce de récipient pour le sperme. D'autres encore ne formaient pas de récipient et donc éjaculaient sur le sol. Et puis par exemple, ce vieux client, là, celui qui avait plus de 80 ans, lui, il ne voulait jouir que sur les cuisses. Parce que s'il jouissait pas sur la cuisse de quelqu'un, c'était du gâchis. se faire spermer dessus gratuitement. La seule fois où j'ai laissé un homme m'éjaculer sur les seins, il avait payé 800 euros.
Ce qu'ils avaient le droit de toucher officiellement, c'était les seins et les fesses. En tout cas, pour les parties un peu emblématiques du corps de la femme, c'était les seins et les fesses, puis après, le dos, les pieds, les cheveux, etc., etc. Et chacune fixait son prix pour se faire toucher les seins.
Ça a été extrêmement bizarre parce que, en général, j'ai toujours été extrêmement ferme. Par exemple, je ne veux pas qu'on touche la chatte et personne ne touchera la chatte. Et ça, c'est une sorte d'interdit très clair parce que c'est un organe sexuel tout à fait reconnaissable. Mais pour le nez, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'était pas prévu au programme. Il n'y a rien qui dit qu'un client ne me touchera pas le nez alors qu'il est prévu dans les règles de l'endroit que. Pas la chatte. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. À la fois, j'étais horrifiée qu'il me touche le nez. En tout cas, j'avais pas du tout envie qu'il pose ses mains sur moi et sur mon visage encore moins. Et je sentais qu'il enfreignait à quelque chose, en tout cas à mon sens. Et en même temps, je me sentais vraiment forte d'aucun argument pour l'empêcher de faire ça. C'est beaucoup plus facile finalement de défendre ses organes sexuels que son nez, je crois.
Stunned by an explosion so unexpected, people pick their way through shattered glass. Sirens and alarms fill the air immediately after the blast. Most of the windows on the building that houses the Prime Minister's office were blown out. Nearby ministries were also damaged. For a time, the oil ministry was on fire. The Prime Minister is safe. And as it's holiday season in Norway, the central city's streets were not as crowded as they could have been. But several people were injured.
I just saw a lot of people. I wondered what had happened, so I came here. I don't know what will happen to me. It's confusing. You don't know what's going on. It was a big bomb.
Oslo police have told the Reuters news agency that the explosion was caused by a bomb. It's unclear where it was planted, although the tangled wreckage of a car was outside one building. Norway is a member of NATO and has been threatened by Al-Qaeda leaders in the past for its involvement in Afghanistan. but political violence is virtually unknown in the country. Tania Page, Al Jazeera.